Il est fondamental que chacun d'entre vous choisisse en précisant ce que vous désirez changer. Si vous marchez à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose. Et cette chose, nous pouvons vous la fournir.
Art Espace Public est un cycle de 10 rencontres débats proposés de janvier à mars 2008 par le Master Projet Culturel dans l'Espace Public de l'Université de Paris 1, la Sorbonne, en partenariat avec Hors les Murs, Centre National de Ressources des Arts de la Rue et des Arts du Cirque.
Bonsoir à tous. Jean Digne, Stéphane Simonin, Hors les Murs, partenaires du cycle Art Espace Public sont là au premier rang. On les remercie de prendre place. Précisément, d'ailleurs, nous avons l'habitude de commencer ce cycle Art Espace Public par un projet lié à un mur, mais bien sûr, ce soir, c'est l'ensemble de la rencontre débat qui sera consacré à des projets sur des murs, les projets Dernier Espignon Ernest. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez la bienvenue également à tous ceux qui n'étaient pas là. Oui, on peut l'applaudir, absolument. Et ce soir, finalement, nous allons retrouver plusieurs des thématiques qui ont été déjà ouvertes dans le cadre du cycle. Je pense à la marche, évidemment, puisqu'on va le voir, Ernest, Pignon Ernest a marché beaucoup dans Naples. Le son dans la ville, également. Les interstices urbains, qui était le thème de notre troisième rencontre. Évidemment, il sera question d'interstices ce soir. Mais en tout cas, c'est aussi une thématique, finalement, que nous avons abordée. Sauf peut-être la semaine dernière, où nous parlions de Second Life, le monde virtuel de Second Life, mais cela dit, la ville réelle, on l'a évoqué notamment aujourd'hui, c'est aussi une ville imaginaire, une ville invisible comme celle d'Italo Calvino, et Naples n'échappe pas à la règle, et donc finalement peut-être que nos questions abordées la semaine dernière se retrouveront aussi ce soir. Alors c'est un anniversaire, c'était aussi pour nous l'occasion d'organiser cette rencontre. Ça fait 20 ans que vous avez commencé à intervenir à Naples en 1988, vous y êtes allé à 4 reprises, entre 88 et 95, et donc nous allons faire ce soir un retour à Naples avec vous et une tentative de décryptage de ce travail dans la ville. On a lu aussi tous les textes, enfin beaucoup des textes qui ont été consacrés à votre travail, les textes de Marie-Josée Monzin, de Régis Debray, Thierry Marc de Biasi, Michel Onfray, Virilio, André Velter. Vous êtes un artiste qui inspire beaucoup les commentateurs, les écrivains. Et d'ailleurs, des traces de ces recherches effectuées par les étudiants du master se trouvent dans le dossier que vous avez eu. Et ce sont des éclairages, des points de fuite, des contrepoints également à tout ce qui va être dit aujourd'hui. Je vais juste dire un mot pour terminer mon introduction. C'est une phrase de vous qu'on retrouve en quatrième page de couverture du catalogue, magnifique catalogue de l'exposition que vous avez faite à Montauban l'été dernier, Situation ingresque. Vous dites « Je ne mets pas des œuvres en situation, je fais œuvre des situations ». Et cette phrase, je pense, va cheminer dans nos esprits toute la soirée. Vous ne mettez pas l'art dans la rue, vous faites œuvre de la rue elle-même. Et dans le cas de notre cycle Art Espace Public, évidemment, c'est une approche et une problématique très spécifique qui nous intéresse particulièrement. Donc ne pas faire de l'art dans la rue ou dans l'espace public, mais un art de la rue, de l'espace public. Nous allons tenter avec vous ce soir de comprendre et de ressentir en quoi et comment vous travaillez la rue, l'espace public. Avec, on va en reparler dans la soirée, une difficulté peut-être aussi, c'est encore une fois d'aller au-delà des images, mais de les intégrer dans un contexte, d'essayer d'intégrer la question de la réception, de la vie des œuvres, de la vie des lieux, c'est-à-dire encore une fois les sons, les bruits, la musique, les odeurs, le mouvement, les parfums.
En 1985, après votre premier voyage de repérage à Naples, le premier contact avec cette ville ne vous avait pas semblé aussi évident. Vous confiez ceci : je suis rentrée de ce séjour napolitain avec le sentiment que je ne pourrais pas poursuivre ce projet. Sur place, je ressentais comme un malaise. Au premier contact avec Naples, Il règne une telle effervescence, un tel désordre, et malgré la cordialité des Napolitains, leur générosité, leur exubérance, il semble difficile de s'adapter au lieu, de s'y retrouver, d'y pénétrer. D'ailleurs, Tahar Ben Jelloun, pour caractériser Naples, évoque l'excès. L'excès de bruit, l'excès de mystère, l'excès d'évidence, l'excès de violence et la peinture rouge versée sur les murs pour faire croire à du sang. Comment alors, lors de votre second passage à Naples, en 88, avez-vous dépassé cette angoisse? Comment avez-vous réussi à travailler dans cet univers sensoriellement et visuellement saturé?
Oui, donc c'est vrai que mon premier contact avec Naples m'a vraiment impressionné. C'est-à-dire que à la fois ce qui se voit et ce que j'ai vu et ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire que simultanément, je me suis mis à lire. Et puis d'abord, la ville, je sais que le premier jour, j'ai téléphoné à ma compagne. Je lui ai dit, écoute, c'est dommage, je suis arrivé un jour exceptionnel. Il a dû avoir une grève générale, quelque chose comme ça. Il y a un bordel partout, il y a un mouvement, des vaisseaux. Et j'ai cru que c'était une chose exceptionnelle. Après, j'ai vu que c'était tous les jours comme ça. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Et simultanément, ce que je n'avais pas mesuré au départ... j'ai découvert la richesse, vous voyez, c'est les 3000 ans d'histoire qui sont là et quelquefois physiquement dans les rues. Et j'avais le sentiment, je l'ai toujours, que j'étais pas armé culturellement pour appréhender une ville comme ça. Les travaux précédents que j'avais fait dans des villes souvent avaient consisté à une ou deux images simplement. Vous voyez, j'essayais de faire une image un peu synthétique qui était l'expression d'un groupe social ou de l'approche d'une cité ou d'un événement. Là, du coup, c'est ce qui m'a amené à faire ce travail. Donc, vous avez découvert que j'ai mis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je veux dire que à partir du moment où j'ai accepté, puis même j'ai pris comme une chance l'idée de faire des dizaines d'images, j'étais un peu libéré quand même. Mais de toute façon, on ne peut pas ne pas être impressionné et un peu pétrifié par la richesse, le poids de cette ville, quoi. Moi, j'étais allé avec une espèce de complexe. Excusez-moi, je fais un petit truc en amont. Je suis allé travailler à Naples parce que dans le travail précédent, j'avais fait des sculptures constituées de cellules végétales vivantes auxquelles j'avais donné des formes humaines. Et je m'étais rendu compte, après avoir fait ça, en voyageant un peu à travers le monde, j'étais allé en Amérique latine, en Chine, que le mythe d'homme ou de femme ou de dieu, de demi-dieu, né du végétal ou devenant du végétal, comme Daphné ou Narcisse et tout ça, c'était un des mythes les plus universels et que je n'y avais pas pensé, vous voyez, genre Monsieur Jourdain, quoi. J'avais travaillé dans un laboratoire de biotechnologie en pointe de l'héliosynthèse et tout ça, et j'avais réalisé une œuvre qui au fond répétait un des mythes les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Donc, à partir de ce constat, j'avais mesuré que j'étais un peu déficient culturellement, et je m'étais dit qu'il faudrait que j'interroge un peu les mythes qui fondent ma culture de méditerranéen. Moi, je suis niçois, et donc je pensais aller en Grèce un peu bêtement, quoi, y aller à la source. Et c'est en écoutant une série d'émissions, je ne sais plus si c'est France Culture ou France Musique, enfin une série d'émissions de Philippe Hersant sur la musique napolitaine, que j'ai pris la décision d'aller à Naples. C'est-à-dire que j'étais scié par cette espèce de richesse incroyable. Dans la même émission, j'ai découvert Gesualdo. Je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez, en l'écoutant, je ne savais pas si c'était un truc du 19e lié à Almanberg. Et dans la même émission, Solemillo. C'est-à-dire qu'une musique, une ville qui sécrétait des choses, un éventail aussi large de sensibilité, de richesse et tout ça, c'est ce qui m'a décidé à partir à Naples. Voilà, donc je suis allé à Naples pour interroger ces mythes fondateurs comme ça. Voilà. Et, Et donc, votre question, pour répondre à votre question, j'ai jamais eu le sentiment que j'étais apte à le faire, mais je l'ai fait petit à petit, si vous voulez. Ça s'est fait peu à peu. À chaque voyage, après chaque lecture, après chaque contact. Je sais que au cours de mon premier voyage, Jandine, qui est là, avait organisé une soirée. Il y avait 10 personnes, il y avait des directeurs de troupes de théâtre, une urbaniste, une architecte. Je me demande s'il n'y avait pas un curé aussi. Non ? Oui, je crois bien. Parce que je ne savais pas comment saisir la complexité de cette ville. Voilà. Et ça s'est fait peu à peu grâce à des rencontres, tout ça. Voilà. Et aux lectures, beaucoup de lectures. Ce n'est pas pour envoyer aux deux directeurs du Grenoble qui m'ont reçu, mais en lisant Schifano aussi à ce moment-là. Et voilà. D'ailleurs, que ce soit Jean Digne ou Jean-Noël Schifano m'ont accueilli au Grenoble. Je dis ça parce que tout à l'heure, on m'a posé la question... comme si c'était une commande, ce que j'ai fait à Naples. Ce n'était pas du tout une commande. J'y suis allé avec l'idée que si je n'étais pas capable de traiter Naples, je foutrais le camp, c'est-à-dire que je ne réaliserais rien. Donc, il n'y avait pas de commande. Simplement, mes relations avec le Grenoble, avec l'Institut culturel français de Naples, ça a été qu'ils m'ont accueilli et hébergé généreusement. Voilà. Il n'y avait pas de contrat, ni de contrat de... Voilà. Parce que il n'était pas exclu que je m'arrête. Quoi. Vous voyez, au début, j'ai cru que je ne pourrais pas traiter cette ville. Quoi. Voilà. Je ne sais pas, j'ai répondu un peu à votre question.
Oui, oui, en partie, oui. Ouais.
Non, mais on va préciser encore. On va préciser.
Alors, avant de voir la deuxième séquence, donc acte 2 plutôt, de l'atelier à la rue. Hop. Alors, avant de voir l'extrait donc, suivant, je vais repréciser quelques points de votre technique. Alors, vous nourrissez beaucoup de références picturales. On peut croiser dans vos dessins, notamment à Naples, des références à Caravage, Piero della Francesca, Michel-Ange.
Ouais, c'est-à-dire que quand vous avez dit au début, quand vous m'avez cité, en disant, c'est vrai que je dis souvent, j'essaie d'appréhender la réalité qui est une ville en général, à la fois en marchant et en lisant. Donc à la fois à partir de ce qui se voit, là je fais un vrai travail de peintre ou de sculpteur ou de type qui travaille plastiquement, et puis après j'essaie de travailler les choses qui ne se voient pas, c'est-à-dire le potentiel symbolique comme ça que portent les lieux. Donc en marchant, il s'est imposé, c'est pas venu tout de suite, je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs je me disais, j'aurais dû y penser le premier jour. Se tourner vers Caravage, c'est une espèce d'évidence à Naples. Je veux dire que qui est multiple. À la fois, ça va de soi. Naples, c'était donc une plus grande ville d'Europe au XVIIe siècle. Les immeubles sont montrés très haut. Il y en a qui font plus de 20 mètres de haut. Les rues sont étroites. En même temps, c'est la ville peut-être la plus ensoleillée d'Europe. Et donc, il y a en permanence cet affrontement ou cette complémentarité entre l'ombre la plus profonde, les ténèbres, et la lumière et le soleil qui descend dans les vies comme ça, très, comme un projecteur. Il y a ça donc, qui nous amène vers Caravage, mais plus encore la sensualité de la ville. Voilà, il y a une présence du corps, une sensualité, je veux dire... tous les gens qui parlent de Naples, c'est le cas de Jean-Noël qui est là, mais je crois que c'est Jean-Paul Sartre dit Naples est sombre comme un dessous d'aisselle. Il y a toujours une référence au corps, au boyau, il y a une sensualité, le poisson, le linge. Il y a tout le temps une image du corps, du linge et tout ça qui naturellement, je crois, nous amène vers Caravage. Et on y reviendra alors. Sans même penser l'importance de Naples dans l'œuvre de Caravage. Vous voyez, je veux dire, déjà physiquement comme ça. Pardon, je vous ai coupé.
Non, du tout. Donc, pour continuer sur votre mode opératoire, donc vous ne dissimulez pas vos emprunts, mais justement, au contraire, vous mettez en scène tout particulier, en citer la source, toujours les références à Caravage, surtout à Naples. Vous dessinez sur de grands supports à échelle 1. Vous utilisez le fusain ou la pierre noire, puis vous faites une sérigraphie de ces dessins que vous allez coller à une multitude d'exemplaires dans la ville, de nuit ou de jour.
Alors, il y a... Bon, je fais toujours les dessins de cette manière-là, mais quelquefois, donc, ce sont des sérigraphies, on va voir. Hein. D'ailleurs, ce qu'on a vu dans le film, là, le soupirail, c'est une sérigraphie. Mais les deux autres dessins, mettons, quand il y a une espèce d'interrogation sur les images de la mort qui a sécrété cette ville. Donc il y en a je n'avais pas de raison de répéter. J'ai traité, par exemple, je crois qu'on les a vus dans la première partie, les deux Pietà qui sont à San Martino, celle de Ribera, celle de Stanzione. Ça, ce sont des dessins originaux qui sont collés dans la rue, ce ne sont pas des sérigraphies. Hein, c'est un dessin original qui est collé parce que je n'ai pas de raison de les multiplier. Et puis j'essaie de faire une image plus emblématique, donc je fais la sérigraphie et qui, elle, est multipliée dans un parcours qui a aussi du sens. En général, ils ne sont pas collés, on y reviendra dessus. Là, on est à San Domenico Maggiore, et c'est là où il y a le Christ à la colonne de Caravage sur la place. Voilà. Donc, vous voyez, il y a les deux techniques. Quelquefois, je colle des dessins originaux et quelquefois des sérigraphies.
Alors, vous utilisez du papier journal, donc non par économie.
Ah, du jour ou de nuit jour... ouais. Non, en général.
Ah, oui. Allez-y. Désolée.
Non, le plus souvent, je le fais de nuit, surtout à Naples. Parce que, non, presque toujours d'ailleurs. Sauf récemment, j'ai fait des travaux à Soweto et à Alger, c'était trop dangereux de faire de nuit. Donc, mais je préfère faire de nuit parce que, pour plusieurs raisons. Parce qu'au fond, je compose un peu comme. Là, je suis à un moment un peu comme un peintre, c'est-à-dire que j'ai choisi des lieux, une tache dans un mur, une fissure, une colonne, un truc, et j'organise, j'essaie d'anticiper. La façon dont les gens vont rencontrer l'image. Donc, c'est bien que j'ai un peu de calme, parce qu'à Naples, il y a quelques fois où j'ai collé dans la journée, ça fait un attroupement. En plus, je suis assez bavard, ça dure 3 heures. J'aurais collé une image par jour. Donc, il vaut mieux coller la nuit parce qu'on est calme. En plus, mes images, je reviendrai là-dessus, elles sont très vulnérables. Tant qu'elles sont avec de la colle, on peut les prendre et les enlever comme ça, quoi. Voyez, donc c'est bien qu'elles sèchent. Elles sont illisibles pendant une heure ou deux tant qu'elles sont mouillées. Elles sont illisibles. Donc, et puis j'aime bien qu'il y ait l'idée presque d'une apparition que les gens. Voyez, j'ai quand même réussi pendant tout ce temps que j'ai travaillé à Naples à ce qui est, je crois, pas une seule fois mon nom. Il y a eu des articles dans les journaux, le Mattino et tout ça. Et mettons, je me rappelle le Bonomo qui m'avait fait un grand papier dans le Mattino. J'avais dit, mais dis pas qui c'est. Vous voyez, il faut qu'il y ait une espèce de mystère. D'ailleurs, une fois, je faisais des photos. Il y a un curé, parce qu'à Naples, il y a encore des curés en soutane, qui s'arrête. Il me dit, vous savez, il ne savait pas que c'était moi qui avais fait ça. Il me dit, vous savez, les premières sont apparues à Pâques. Donc, à Pâques 80, en le chargeant d'un truc un peu mystérieux, il y a cette propension à avoir des miracles ou des choses un peu. Voilà. Donc. J'aime bien qu'on les découvre au matin, d'un coup, vous voyez. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a un peu l'idée de découverte. La présence de mes images change le regard qu'on a sur le lieu, et donc c'est mieux de les découvrir comme ça. Et voilà, elles sont moins vulnérables. Les quelques-unes où je colle le jour, c'est là où j'ai mis des échelles, parce que quand j'ai mis des échelles la nuit, les gens ont appelé la police, parce que vraiment chaque fois, à cause des vols, et donc.
je parlais du caractère éphémère de vos œuvres dû à votre matériau, le papier journal, donc un papier qui s'abîme, s'efface. Donc Pierre-Marc de Biesy écrivait par rapport à votre œuvre, l'œuvre n'est véritablement achevée qu'à l'instant où sa dernière trace matérielle est effacée. Elle n'existe plus que de manière immatérielle, sous la forme d'un souvenir qui hante les esprits et les lieux. Donc on peut ainsi parler d'un double effacement dans votre œuvre, donc l'effacement de l'œuvre avec le temps, donc son affirmation en tant qu'œuvre, à travers son caractère éphémère, mais aussi de l'effacement de l'artiste, dû au fait que vous ne signez pas vos œuvres. Donc pourquoi, à travers ce double effacement, faites-vous don de vos œuvres au temps et au regardeur ?
Ernest, opinion Ernest.
Vous l'avez dit, quelqu'un, j'ai dû écrire ça 50 fois, mais mes œuvres, ce ne sont pas les dessins. C'est, je veux dire que toutes ces images que j'ai collées, qui traitent des représentations de la mort, je les ai collées les jeudis ou les vendredis saints. Je veux dire, ces dates sont un des éléments de ma palette, si vous voulez. Le temps compte rencontrer une image de la mort à Naples, étant donné ce que sont les Napolitains. L'image n'est pas reçue de la même façon que si je l'avais collée au mois d'août ou le jour de Noël, quoi. Je veux dire que le contexte de Pâques, de la Passion, de la Résurrection, même si l'appréhension de Pâques à Naples est un peu particulière, ça intervient dans la façon dont elle est reçue. Je travaille sur Pâques parce que, en même temps, c'est difficile d'en parler comme ça. Je veux dire, il y a une multitude de rites qui compte l'histoire de Dieu, de demi-Dieu mort, ressuscité sur le bassin méditerranéen. Je veux dire que le rite de Pâques, il est greffé sur d'autres rites, sur des rites païens. Et même plastiquement, Aphrodite avec Adonis dans les bras marque la Pietà chrétienne, annonce, si vous voulez dire que... Donc, s'inscrire inscrire ces images à Pâques, ça a du sens aussi, qui intervient dans la réception de l'image, si vous voulez. Hein, donc, voilà. Donc, pour dire que on peut pas... Mes œuvres, ce n'est pas mes dessins, c'est une appréhension, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le lieu pris dans toute sa complexité, ce qui se voit et l'invu, quoi, et son histoire, et le potentiel qu'il porte, et tout ça, et le moment. Donc c'est la situation, quand je dis je fais œuvre des situations, c'est ça. Donc, alors, la dégradation, le fait que c'est éphémère, c'est un élément qui compte, surtout quand il s'agit d'images de la mort. Quand on voit ces images, elles portent une espèce de contradiction. Entre autres, il y en a d'autres, je vais reviendrai. C'est que d'habitude, beaucoup de choses qu'on voit dans la rue sont souvent très rapides. C'est des tags ou des pochoirs ou des choses comme ça. Et il y en a qui sont très bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup le travail que fait Mystique, par exemple, des choses comme ça. Bon, moi, je fais des dessins, des choses qui sont beaucoup plus élaborées. Il y a une espèce de contradiction à découvrir des dessins chargés de références, d'histoires, de citations, et de voir qui vont disparaître très tôt. Je veux dire, alors, je pense pas que les gens qui les découvrent se disent « Ah, ça va disparaître », mais implicitement, ça y est. Dans un roman récemment, il faut que je l'apprenne par cœur, c'est dans l'élégance du hérisson. L'auteur dit, elle parle des roses et elle dit, en fait, on est très ému par les roses parce que on sait qu'elles vont disparaître. Voilà. Et bon, et dans mes images et dans ce que je propose, il y a une chose de cet ordre. Vous voyez, je veux dire. Donc l'éphémère fait partie de la proposition poétique. C'est pas un handicap, c'est pas. Et je l'ai mesuré. J'ai mesuré le sens que porte le caractère éphémère. La première fois, quand j'ai travaillé sur Arthur Rimbaud, si vous voulez, voilà, je me suis rendu compte, j'avais fait un parcours d'images de Rimbaud, de Charleville à Paris, que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans ce que je proposais, c'était le côté fulgurant, c'est que ça allait disparaître, si vous voulez. Et ça disait que le Rimbaud en marbre de Charleville est une imbécilité, si vous voulez, que c'est une espèce de trahison, voilà. Donc l'éphémère fait partie de la proposition. Et en effet, je ne vais pas répéter parce que vous avez lu des trucs que j'ai dit. J'ai choisi ce papier parce qu'il se nourrit des murs que j'ai choisis, de la texture des murs. Je les fais rentrer dans les fissures, dans les moulures. Et ouais, ils sont enrichis de tout ça. Il y a un truc d'ordre sensuel. J'ai fait la préface d'un livre d'un photographe qui travaille à Naples, qui est un très bon photographe qui s'appelle Volut, qui a fait un livre sur la dégradation de mes images, Et dans la préface, je lui avais dit, mais je connais les murs de Naples sur le bout des doigts, mais vraiment sur les bouts des doigts, parce que j'ai fait rentrer toutes mes images dans les murs comme ça, voilà.
Pierre-Marc de Biasi avait déjà apparenté votre travail aux arts de la rue. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas plutôt metteur en scène ou scénographe que plasticien ?
Ernest, Pignon Ernest.
Ouais, c'est un peu de cet ordre. Il m'est arrivé un jour dans une de mes expositions, il y avait Jacques Lassalle, vous savez, le metteur en scène. Et il m'a dit la même chose que vous. Mais je lui ai dit, mais tu as remarqué, moi, les comédiens, je me les dessine, je les mets où je veux. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas inscrit ces images par hasard sur ce parcours-là, bien entendu. Je veux dire que le parcours des processions de Pâques, qui sont liées déjà à d'autres rituels liés à la mort et à la résurrection, font partie de ma proposition, bien sûr.
Alors précisément, on peut engager la discussion avec qui veut dans la salle, comme on vient de le faire avec Carlo Grassi. La parole est à qui le souhaite, qui la souhaite.
Oui, donc vous parliez de votre regret de ne pas avoir gardé de traces vidéo. Et est-ce qu'il reste des traces dans la ville encore aujourd'hui? Si on va à Naples, est-ce qu'on peut trouver encore certaines de vos œuvres?
Dernière nouvelle, il y a une image, Jean-Noël a fait pareil tout à l'heure, je ne veux pas faire de la pub pour mon livre comme toi. Il y a un dernier livre qui est sorti sur mon travail, il y a la photo. Pendant qu'on réalisait le livre, on a reçu par un mail, enfin une image, il reste une Sainte Agathe, ouais, voilà, mais qui est vraiment... Voilà. Non, mais vous savez, ça fait... C'est quelle année, le dernier? Voilà, donc c'est 95 que j'ai arrêté Naples, vous voyez, donc ça fait 12 ans, c'est 12 ans.
Donc on a envoyé plusieurs amis voir la Sainte Agathe, et à chaque fois, c'est le même scénario. Les femmes la protègent, donc je crois que c'est une des raisons essentielles pourquoi Sainte Agathe est encore là.
Oui, donc elle va rester. J'en parlais dans la première intervention, il y a, dans mon travail de Naples, il y a toute une série d'interrogations sur les images de la mort qui a sécrété cette ville, et tout un travail qui est une quête des images des femmes vénérées à Naples. Et les deux parcours, j'ai fait se croiser le parcours sur la mort et le parcours sur les femmes dans Spaca Napoli, dans cette grande fente de Naples, avec une citation de la mort de la Vierge de Caravage. Et je l'avais collée à cet endroit-là, parce que j'avais du mal avec ce dessin, cette image de corps allongé tout seul, fonctionnait, j'avais du mal à le coller. Puis j'avais repéré ces deux femmes que ceux qui connaissent Naples, c'est près du magasin de Grassi, là, de l'hôpital et des Bambole, voilà, dans Spacca Napoli. Et j'avais le sentiment que ces deux femmes, leur présence tous les jours, puisqu'elles vendent de serpillières et puis des cigarettes de contrebande, jouaient un peu le rôle que joue la Marie-Madeleine dans le tableau original. Vous savez, il y a toujours, enfin souvent dans les peintures de Caravage, mettons dans la mise au tombeau qu'on a vue tout à l'heure, il y a la dalle du tombeau qui fait un passage entre l'espace du tableau et l'espace des gens qui regardent. Et je pensais que ces deux femmes jouaient un peu ce rôle, à la fois de veilleuse et de passage, comme ça. Donc, une année, je suis descendu avec ces photos pour les donner à ces deux dames, cette photo-là. Et puis, j'ai appris qu'elle était morte. Donc, je l'ai dessinée, Antonietta, celle qui est à droite, et je l'ai collée sur le mur. Voilà, je l'ai collée là. Et vous voyez, il y a ces petits hôtels qui étaient tout à fait détériorés. Bon, alors il faut que je raconte. Donc, les gens de la rue, c'est Grassi qui me dit, tu sais, on s'est cotisé, on va mettre une vitre devant le dessin d'Antonietta. Alors j'ai dit, oh, ça m'embête un peu qu'il y ait une vitre devant tout ça. J'aurais dû les laisser faire, en fait. Mais bon, je lui ai dit, écoute, si... Il me dit, mais tu sais, tout le monde va respecter le dessin d'Antonietta, mais si un enfant le déchire et tout, j'ai dit, ben tu me rappelles et je viens et je le refais. Et donc, 2-3 ans après, je suis allé le refaire, en refaire un autre. Voilà. Et entre-temps, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'ils avaient rafistolé le petit hôtel là, et qu'ils avaient mis sa photo dedans. Quoi. Voilà. Mais ça, je ne sais pas si elle y est encore. À propos de ça, ce qui me semble avoir bien correspondu à Naples dans ce que propose mon travail, c'est le fait de découvrir les œuvres dans l'espace où on vit chaque jour, si vous voulez. Et je pense pas que ce soit meilleur que les découvrir dans un musée ou dans une galerie, mais je pense que la rencontre est vécue d'une autre manière. Et dans ce sens, c'est plus napolitain, ça, c'est assez juste comme chose. Le problème, l'inscription d'images comme ça dans la rue pose plusieurs problèmes. Déjà, ça met en cause la chose très convenue de découvrir toujours les œuvres frontalement. On a toujours, en général, on découvre les œuvres frontalement. Là, je cite, je dirai pourquoi je préfère faire des citations. J'aime bien affirmer mes images comme des images, si vous voulez. Je ne sais pas de faire... la mort de la Vierge, j'essaie de faire l'image de la mort de la Vierge. Donc quand c'est une citation, c'est plus évident que quand c'est une image que je conçois moi. Donc là, je prends cette citation de Caravage, c'est une aubaine, mais c'est un tableau qui était fait, cette peinture qui est au Louvre, maintenant on a cette chance, c'était fait pour une église du Trastevere, elle a été refusée parce que la Vierge était un peu gonflée, elle avait les pieds sales, vous savez, il y a toute une légende sur le refus du tableau, mais il était conçu pour être découvert très frontalement dans cette église du Trastevere. Moi, je le colle dans Spacca Napoli, qui, à cet endroit-là, doit faire peut-être 4 mètres de large, à peine. Et donc, on va le rencontrer soit par la gauche, soit par la gauche, en biais. Et ça nécessite, bien qu'apparemment, c'est une citation du tableau, c'est pas, si on projette une diapo et qu'on calque, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut complètement recomposer l'espace qui détermine le corps, faire un travail un peu d'anamorphose, changer... La perspective même de la main qu'il y a dans l'original du tableau, si vous allez au Louvre, vous verrez. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que la rue est très étroite à cet endroit-là. Donc j'ai beaucoup de problèmes de cet ordre pour inscrire les images dans les rues. Quoi. Voilà, il y a un gros problème plastique, purement plastique. Quoi. Il y a des contradictions. Moi, je pense que c'est toujours très positif, les contradictions. Je suis d'un temps, on croyait à la dialectique, mais c'est l'anniversaire de 68. Il y a dans mon travail la nécessité d'un effet de réel très fort pour que ça tienne le coup, surtout à Naples, parce qu'il y a une propension, un bordel visuel, une richesse, les draps, la richesse de la rue, c'est tellement forte que si les dessins ne sont pas étayés, architecturés et tout ça, ils ne tiennent pas la présence, ils ne tiennent pas le coup, on ne les voit pas. Et donc... je travaille beaucoup cet effet de réel, ce qui m'oblige à comme vous le disiez, à travailler les muscles et tout, parce qu'en plus, je voulais qu'il y ait cette allusion à la sensualité de Caravage, à la façon dont la lumière joue sur le corps, les tissus et tout ça. Mais en même temps, je, comme je ne cherche pas à faire un truc réaliste et un trompe-l'œil, je veux dire, comme elles l'ont lu tout à l'heure, moi je résume mon travail en disant c'est un bout de réalité dans lequel je glisse une fiction, et ça s'affirme comme une fiction. Je laisse en noir et blanc, ce qui est vraiment la convention du dessin, qui dit, et souvent, pas tous les coups, parce que quelquefois c'est, je ne peux pas, mais vous avez vu, mettons, je laisse le rectangle blanc du papier, qui affirme vraiment que c'est une image que je mets dans la rue, qui dit c'est une image. Vous voyez, donc c'est un vrai problème. Je regrette aussi beaucoup les photos, mais on n'a pas d'autre solution. Parce que mon travail, une singularité de mon travail pour un travail plastique, c'est d'ignorer complètement la notion de cadre. Je pense complètement dans l'espace et le mouvement de la rue. Et quand on les voit avec des photos, évidemment c'est cadré, ce qui fait un objet plastiquement plus banal en quelque sorte. Voilà, donc. Mais bon, c'est les deux reproches que je fais à la photo. Dire que non, c'est là, mes images, elles naissent complètement de mon appréhension des lieux et de l'histoire des lieux. Quand je suis parti, je pensais pas que j'allais dialoguer avec Caravage, et c'est Naples qui m'a amené à ça. Quand j'ai fait des images dans les cabines de téléphone, j'ai travaillé à Alger, j'ai pas du tout fait ce type d'image, bien sûr. Ça s'est imposé comme une espèce d'évidence. Quand j'ai mis, on le disait tout à l'heure, j'ai collé la première image en citant un tableau qui me semble essentiel de Caravage, qui est peut-être une des dernières qu'il ait peint à Naples, qui est ce David et Goliath extraordinaire, où il y a une relation étrange entre David et Goliath. On sait que Goliath, c'est Caravage lui-même qui se représente la tête tranchée. Donc cette image, elle est à la Villa Borghese, hein, maintenant, mais c'est un tableau qui est au fond très napolitain. Là, je cite ce tableau en commençant à Naples, en associant Caravage et Pasolini, parce que c'est une espèce d'évidence. Et je prends Pasolini, je mets la tête de Pasolini avec ce foulard, vous savez, qui fait penser au personnage qui est dans le Saint Matthieu de Caravage, mais Pasolini a ce turban dans le Decameron, qui est tourné à Santa Chiara, où il dit je suis le meilleur élève de Giotto. Et ce lien avec Santa Chiara est intéressant à Naples aussi, hein. Je fais tenir la main de Pasolini, la main qui tient la tête de Pasolini, par la main de l'amour vainqueur, l'amour profane, qui est un autre tableau de Caravage, qui est une provocation qu'un jeune garçon, les jambes écartées, vous savez. Là, c'était amusant parce qu'au-dessous, il y a écrit « Défense d'afficher » en plus. Voilà. Vous voyez ce lien avec les deux tout le long. Mon travail est mis un peu sous le parrainage de ces deux personnages essentiels, quoi, vraiment.
Dans votre site internet, vous avez dit, je vous ai entendu dire, que vous n'avez pas l'illusion de faire un art qui est socialement engagé. Mais quand même, vous avez fait des dessins sur l'avortement et le sida. Donc, je voulais savoir pourquoi vous avez utilisé le mot illusion. Et aussi, c'est presque la même question. Qu'est-ce que vous pensez sur l'art qui se pense socialement engagé?
Souvent, quand on parle d'art engagé, c'est en moins d'imaginaire, de poésie, d'invention plastique et tout ça. Je veux dire que quand on travaille surtout dans le domaine des arts plastiques, on se traîne les casseroles de la peinture soviétique ou chinoise. Moi, je ne pense pas que c'est réducteur, mais il y a tout ce passif, quoi, vous voyez, dans notre génération. Donc, je ne veux pas être assimilé à ça, parce que ce n'est pas de cet ordre. Ma recherche, elle est, je n'essaie pas d'illustrer du politique ou du social. J'aime assez, on l'a lu là tout à l'heure, j'aime bien. Moi, j'ai le culot donc, d'aller coller le jour de Pâques sur une église où j'ai fait des trucs qui étaient provocants, mais je n'irai pas faire un tag de la peinture sur une cathédrale. Quoi. Vous voyez, moi, je suis athée, mais je respecte leur rite et leurs trucs. Donc, moi, je colle, mais j'ai la chance qu'avec mon travail, il y a le refus possible en face. En 5 minutes, ils enlèvent tout. Quoi, vous voyez, donc, il y a une espèce de réciprocité possible qui me donne cette liberté de coller sur des monuments et tout ça, parce que je ne dégrade rien. Quoi.
Avant tout respect, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà été interpellé pour une intervention urbaine? Et voilà.
Comment?
Est-ce que vous avez déjà eu une amende ou est-ce que vous avez déjà été interpellé pour une intervention urbaine?
Ah, par la police?
Par exemple?
Ouais. À Naples, c'était extraordinaire. À Naples, un soir, quand je collais justement cette image dont je viens de parler, j'avais un escabeau, parce que vous avez vu, je ne suis pas très grand, je n'arrivais pas jusqu'en haut. L'escabeau, le seau, la colle et tout ça. Et une voiture de police s'est mise à suivre, comme ça, j'ai dit, merde, quand même, pas ici. Et puis le flic vient, il me dit, on va vous garder l'escabeau. Il y a eu ça. Et deux fois, j'ai collé avec des échelles, des gens ont dû téléphoner, parce que j'étais mis des échelles la nuit. Et il y a le côté un peu cow-boy, quand même. Ils sont arrivés avec le pétard à la main, quand même. Mais alors on est descend et c'est un plaisir après. On a discuté, le flic connaissait Caravage. Je crois même, j'ai craint d'en rajouter, je vois où ça se passe. Et je citais Artemisia Gentileschi, vous voyez. Et je crois bien que le flic savait qui était Artemisia. Je crois bien, vraiment. Et quand j'ai eu fini de coller, les 4-5 flics en bas, ils m'ont applaudi comme au théâtre. Quoi, voilà, voilà. Par contre... En France, j'étais arrêté, je ne sais pas, 50 fois, 100 fois. 100 fois ouais. Vous savez, on a, dans un pays comme ici, ils prennent les papiers. Et il se trouve que le papier, j'ai été menacé de suite, quoi, vous voyez, de dégradation de monuments, ce qui arrive aux gens qui font des tags ou des pochoirs, puisque j'ai témoigné au tribunal pour Mystique, puisqu'elle a été poursuivie et elle a eu une amende. Mais moi, le papier journal, c'est pas considéré comme dégradation. Donc, ils m'arrêtent et j'étais arrêté, ils prennent les papiers. Mais j'ai eu des scènes même assez drôles comme ça. Quand j'ai collé Rimbaud, je me souviens, c'était le premier temps que j'étais à Paris. Ils m'ont fait monter dans le fourgon. Il y a un flic qui faisait que gueuler, mais il avait peut-être un peu bu. Ses copains lui disent « Mais arrête de gueuler, tu vois bien qu'il s'en fout. » Et pendant qu'il prenait mes trucs, il y a un flic qui vient, il me dit c'est bien Rimbaud que vous collez là. Vous savez, je pourrais vous réciter par cœur, hein, vraiment. Donc, vous voyez, à 3h du matin, sous le boulevard Saint-Michel, un flic qui vous propose de vous lire Rimbaud dans un fourgon, c'est un plaisir, quoi. Voilà, bon, voilà. J'ai eu des séquences comme ça, et bon, voilà, je sais pas. Ça n'a jamais été grave. J'ai eu un des problèmes. Le dernier truc que j'ai fait, c'est à Alger. J'étais arrêté. J'ai fait un parcours à la mémoire de Maurice Audin. J'ai été arrêté par des gendarmes et ils étaient emmerdés en fait. Ils étaient emmerdés. J'ai dit à ce type, appelez votre chef comme ça. Et alors il vient un sergent. Hein, je ne sais pas très bien les grades comme ça. Qui me dit, vous n'avez pas le droit de coller, vous n'avez pas le droit de faire des photos dans la rue. Et j'insiste, je dis, appelez quelqu'un de plus important. Puis il est arrivé un officier. Ça a été long, hein, il y avait des gens arrêtés autour. Et je lui explique, je lui dis, voilà, je suis en train de faire un hommage à Maurice Audin, qui est mort pour l'indépendance de votre pays. Il me dit, je vous remercie de le faire, je vais expliquer à mes hommes qui était Maurice Audin. Voilà. Donc vous voyez, il arrive des choses formidables quand on fait ça. Voilà. Mais moi, je suis dans une situation un peu surréaliste parce que j'ai été arrêté une fois que je collais alors que j'étais exposé dans le pavillon français à l'Expo universelle, donc pour représenter la France. En même temps, on m'arrêtait parce que je faisais la même chose, vous voyez, ici. Donc je suis dans une position avec l'âge.
rencontre, peut-être l'occasion de faire le lien avec le colloque, je ne sais pas. Nappe, territoire, image fiction, la journée qu'on a passée ensemble.
C'était pas du tout mon intention.
Non.
Pardon.
Je t'en prie.
Ernest, j'ai pas été tout à fait satisfait. Tu me diras que tu t'en fiches pas mal par ta réponse concernant l'engagement tout à l'heure. Je trouve que ça ne va pas. S'il y a l'exemple même d'un artiste qui est dans l'engagement au sens sartrien du terme, c'est-à-dire un engagement à la fois indissociablement ontologique et politique, au sens de Pascal, nous sommes embarqués, nous sommes au monde, donc de toute façon nous sommes engagés. Et je veux dire, tu ne peux pas faire autrement. C'est ta culture politique que nous partageons. On le voit, ça suinte de toutes tes œuvres. Tu es profondément, par tout ton corps, par toute ton existence, engagé. Et moi, je trouve que c'est très important aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous sommes, de l'affirmer. Et tu disais que, bon, je comprends bien hein, l'histoire de l'héritage, je ne sais pas, enfin, le pseudo-héritage chinois, soviétique, etc., toutes ces casseroles, ça, que tu ne les assumes pas. De toute façon, tu les as jamais, t'as jamais voulu les assumer, à juste titre. Mais, depuis le début, tu es dans un engagement profond. Et moi, je pense qu'il ne faut pas rejeter ce terme d'engagement. Il faut l'assumer parce que ce sont les autres qui sont aussi engagés que toi, mais qui finalement ne l'assument pas. On est toujours engagés. Moi, je reste quand même sur cette position. Excuse-moi.
Non, mais je... Ben, je t'applaudis aussi. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je préfère que ce soit toi qui le dise.
Ben, ce sera le dernier mot. Merci, Ernest. Prions Ernest.
Ernest Pignon-Ernest était l'invité de cette rencontre-débat du cycle Art-Espace Public, animé et enregistré le 29 février 2008 à la Sorbonne par les étudiants du Master Projet Culturel dans l'espace public sous la direction de Pascal Lebrun-Cordier. Rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour la suite de ces rencontres que vous pouvez prolonger par la lecture des dossiers disponibles sur le site www.art-espace-public.ca.
Si vous marchez à cette heure et en ce lieu, c'est que vous cherchez quelque chose. Et cette chose, nous pouvons vous la fournir. Thank you.